France Musique. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Qui se jarrette, se lance dans l'inconnu, c'est comme si vous y étiez. Parfois, Keith Jarrett se dit qu'il pourrait être plus tranquille. Qu'il aurait pu depuis longtemps être plus tranquille. Qu'il aurait pu cesser de se lancer dans le vide, sans filet. À chaque fois qu'il va retrouver son public, ce public qui attend tout de lui, rien ne dit qu'il sera à la hauteur, que sa musique saura créer la magie attendue. Surtout s'il y a parmi les spectateurs un de ces hurluberlus qui l'énerve. Un qui prend des photos au mauvais moment, un qui se met à tousser, pendant que lui, suspendu dans le vide, creuse le mystère impalpable de l'instant, essaie de faire sourdre la magie de son clavier et doit subjuguer ses 2000 fans. S'il ne se sent pas bien, si la moindre chose le dérange, il ne pourra plus improviser, il le sait. Il se lèvera tout simplement, sans rien dire, au beau milieu d'une phrase, et il partira. Il l'a déjà fait. C'est à ces conditions seulement qu'il peut continuer à créer ce qu'on attend de lui et dépendre autant de l'inconnu. Prendre autant de risques, ça a un certain prix. Au piano, Keith Jarrett est exigeant, monstrueusement exigeant, avec lui-même et avec le public. Les réactions du public pourront sonner pour lui exactement comme de la musique. Je suis là, devant eux, chargé de leur fournir dans l'instant quelque chose d'unique, et ils font partie du processus de représentation, au même titre que la musique qui est jouée. La musique qu'il joue, avant un disque, avant un concert, Keith Jarrett ne sait jamais à quoi elle va ressembler, ni dans quelle direction elle va s'envoler. Jamais. C'est un saut dans l'inconnu qui se répète à chaque fois, mais qu'il doit, paradoxalement, renouveler en permanence. De quoi s'assurer de belles frayeurs. Si Keith Jarrett pense qu'il aurait pu être plus tranquille, c'est qu'il aurait pu se contenter d'interpréter la musique des autres, celle qui est écrite, celle des grands classiques du répertoire, qu'il connaît très bien pour les avoir travaillés et même enregistrés parfois. y a des choses qu'on ne choisit pas. L'improvisation, il l'a dit et redit, c'était sa seule façon d'être lui-même. Tout petit, Keith Jarrett donnait parfois quelques soucis à sa mère quand il travaillait son piano à la maison, dans sa ville natale d'Allentown, en Pennsylvanie. Car après ses gammes, quand il passait en revue les pages de Mozart, Bach, Chopin ou Debussy qu'il allait donner en concert, il lui arrivait souvent de changer les notes, de modifier les enchaînements, des cadences. Sa mère l'enguirlandait pour ça, ça devenait une mauvaise habitude. Mais Keith lui répondait « Ne t'inquiète pas, maman, pour le concert, je le jouerai exactement comme c'est écrit dans Debussy. » Et lors du concert, c'était exactement la musique de Debussy. Sans faute. Mais ça le frustrait. Lors de son premier concert, en avril 1953, il n'a que 9 ans, ce petit prodige du piano a glissé entre deux classiques de Mozart et de Schubert, quelques pages de son cru. Et d'emblée, ça a plu à l'auditoire. On est venu lui demander de montrer ses partitions et de rejouer ses pièces qu'il a baptisées Jungle Suite, Mountain Scene, A Walk in the Zoo. Ça l'a bien fait rigoler. Rejouer les pièces qu'il a données lors du concert? Comment voulez-vous qu'il fasse? Il n'a rien ou quasiment rien écrit sur du papier et sur des portées. À peine quelques idées, quelques notes pour donner une orientation, une ligne directrice à ce que lui, petit gosse, a imaginé devant les touches. Mais pas besoin de noter. Il a remarqué que tout s'écrit et s'invente à mesure qu'il est au piano. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'est jamais pareil. Une idée mélodique arrive, une autre, et puis une autre, et puis encore une autre. Un enchaînement, des accords très libres. Et voilà qui fait un petit morceau. À l'époque, ça l'amuse, Keith, d'entendre cette musique monter en lui, sortir de ses doigts sans qu'il le veuille, ou presque, comme s'il ne semblait pas pouvoir la contrôler. Et quand c'est réussi, quel bonheur! Au début des années 60, Keith Jarrett joue ses premières compositions solo en concert. Mais à Boston, à la Berklee School of Music, il forme son premier ensemble, où figure déjà le batteur Jack DeJohnette, un allié incontournable des futures décennies. Puis il part à New York, il y intègre le groupe du saxophoniste Charles Lloyd, avec qui il entame une grande tournée mondiale. Dans ses passages solo, Jarrett leur vole quasiment la vedette. Et dans chaque concert, Lloyd lui laisse l'occasion de jouer une page à lui. Improvisé toujours. Succès. Le groupe se sépare en 1968. 2 ans plus tard, il devient le pianiste de Miles Davis. Miles Davis a découvert Keith Jarrett alors qu'il jouait à Paris avec Charlie Haden à la contrebasse au Caméléon, un soir de novembre 69. Jarrett avait 24 ans, Miles 20 plus. Miles Davis est impressionné. Une riche collaboration débute qui permet au pianiste de parcourir et d'intégrer toutes les voix et les subtilités de la modernité en jazz. En 1971, Keith Jarrett enregistre son premier album en solo, Facing You. En août 72, en Norvège, Keith Jarrett donne son premier grand concert solo, au piano. Mais comme il maîtrise très bien aussi d'autres instruments, quelques semaines plus tard, en Suède, il improvise à l'orgue toute une soirée. Il sait aussi jouer du clavecin, des percussions, du clavier électronique, de la flûte, du saxophone solo. Il est si doué qu'il va régulièrement vouloir tenter de nouvelles aventures. Comme la fondation de son trio en 1983 avec Gary Peacock et Jack DeJohnette. Il travaillera aussi souvent avec Jan Garbarek. Quand on se produit en trio, dit-il, ça se joue beaucoup plus au niveau d'un nouveau degré de synergie à atteindre, un nouveau degré collectif. Il ne s'agit pas pour moi de prouver quoi que ce soit au niveau de ma technique personnelle. Le solo est une chose tellement sérieuse qu'il est difficile de se lancer dans une comparaison. En solo, si je n'y suis pas, rien ne se passe. C'est terrifiant quand on y pense. Pourtant, le solo est en soi une aventure qui n'a rien de comparable pour Keith. L'inévitable doit advenir par ce qui est évident, dit-il. Un accord de Ré majeur peut littéralement me crier au visage pour être joué. Évidemment, s'il en arrive à me hurler au visage, je dois jouer cet accord de Ré majeur. Ce que j'appelle l'inévitable, c'est ce qui, quand on se met en situation d'ouverture totale, apparaît comme étant la seule chose possible à jouer. et vous n'avez même pas la chance de porter un jugement sur cette sensation. On ne juge pas ce genre de choses. Cependant, quand on est pianiste et qu'on n'a pas le talent de faire de son piano ce qu'on veut, on est coincé avec des notes qu'on ne peut pas jouer. Et l'auditeur n'est pas censé savoir qu'il vous était impossible de jouer autre chose. Quand un auditeur est touché par ce qui se joue, c'est que quelque chose de l'ordre de cet inévitable et du savoir que le musicien en a passe jusqu'à lui. À partir de 1973, les concerts en solo se multiplient aux quatre coins du monde. Des concerts qui ne partent de rien, de bouts d'inconnus, de réminiscences, de fantômes, de souvenirs de mélodies qui rôdent dans l'inconscient, ou d'une rêverie, d'une humeur, qu'elle soit positive ou non. Le 24 janvier 1975, à l'Opéra de Cologne, étape d'une tournée européenne commencée 2 ans plus tôt, Keith Jarrett, âgé alors d'une petite trentaine d'années, est d'une humeur massacrante. Il a peu dormi et surtout, il est très énervé par la qualité du piano sur lequel il doit se produire ce soir-là. Il y a une grève à l'opéra et ça n'est pas du tout l'instrument qu'on lui avait promis. Alors jusqu'à la dernière minute, il pense annuler le concert, tant pis pour le public. Et puis, finalement, il se traîne cas un cas jusqu'au piano, tandis que la sonnerie de la salle retentit, indiquant aux spectateurs qu'ils peuvent gagner leur place, que le concert va commencer. Que fait alors Keith Jarrett ? Il s'assoit de guingois sur son tabouret et, ironiquement, reprend les 4 premières notes de la sonnerie sur son piano. Oui, vous avez bien compris, il se met à imiter la sonnerie de la salle de l'Opéra de Cologne, en guise d'introduction. D'abord, ça fait bien rire le public. Mais bientôt, plus question de rigoler. Le public est happé. Happé par les vertiges dans lesquels Keith Jarrett l'emmène. Progressivement, la transe gagne le public. Lancé dans cet inconnu, Keith Jarrett livre ce soir-là, pendant près d'1 heure, l'un de ses concerts les plus inspirés, les plus miraculeux. au langage hérité de Bill Evans ou de Bud Powell, Keith Jarrett apporte un degré de sophistication, d'élégance et d'invention incroyable. Il multiplie les raffinements, les ruptures et les déplacements harmoniques. Et surtout, il possède une fraîcheur d'inspiration qui rend ses prestations inimitables. Il y a, dans ses longs concerts solos, une énergie, une joie et une ivresse absolue de faire chanter le piano. Le goût des beautés inattendues, le sens délicieux de la surprise. Un engagement et une convulsion qui se manifestent jusque dans ses petits cris quand il joue. Grand joueur de ballade, Keith Jarrett sait non seulement faire chanter son piano avec son lyrisme chaleureux et extraverti, mais il maîtrise aussi tous les stades de l'improvisation. L'introduction, l'art de faire augmenter la tension peu à peu, soit en accumulant les notes, soit par des montées dynamiques irrésistibles, qui aboutissent à une sorte de transe, d'hypnose communicative. Avidité, générosité, audace, spontanéité, mobilité, refus de choisir et de se choisir, écrit Alain Gerbert. Se lancer dans l'inconnu, pour lui, s'épuiser dans l'esprit du blues, c'est broder dans un style purement mélodique, c'est avoir une approche rythmique du piano, finir un solo en chanson pop, après l'avoir débuté dans un style pseudo-baroque. Parfois, si doué qu'il soit, ses doigts courent si vite sur le clavier qu'il ne se soucie plus de la forme de ce qu'il improvise, qu'il semble abandonner la mélodie. C'est tout simplement que Keith Jarrett se renouvelle. Il doit se renouveler pour continuer. Cela lui coûte, mais c'est une question de survie. Quand j'improvise, ma préparation est d'abord musicale, en ce sens qu'il faut que je me désintoxique. Je dois traverser une pièce de décompression pour changer d'air. Et mes mains doivent retrouver des gestes aussi vierges que possible. Quelles sont les possibilités ici? Je ne peux pas laisser ma main gauche jouer comme elle le faisait les 10 dernières fois. Je dois en quelque sorte la réinitialiser. Alors je répète dans ce sens. Je travaille à me déconstruire. Quand je commence un concert, c'est comme si je me trouvais déjà au milieu de la représentation. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un début qui, peu à peu, resserre de plus en plus son propos pour aboutir à autre chose. Ou à l'inverse, se relâche. On n'a pas besoin de commencer tout doux. Je pense qu'on a plutôt besoin que le discours explose. C'est comme ça que l'univers a été créé, non ? Ça m'a pris plus de 30 ans pour me souvenir de ça. Bien que je donne à certains l'impression d'être une bête de foire, le degré de préparation mentale, physique et émotionnelle pour un concert solo est en deçà de l'imagination. Avoir joué en solo toutes ces années n'apporte aucune confiance supplémentaire. Le sentiment d'insécurité s'est même accentué. Comme si, la musique devenant meilleure, l'insécurité s'approfondissait. C'est un poids chaque fois plus lourd, parce que ce que vous avez construit au fil du temps en tant que musicien, c'est précisément ce contre quoi vous devez jouer en cherchant à repartir toujours de votre expérience et non pas de vos créations antérieures. C'était « Kiss, j'arrête, se lance dans l'inconnu », réalisation de Géraldine Prutner, avec Philippe Palares, Alain Joubert et Véronique Kerdiles.
France Musique.
Il y a quelques semaines, dans la tribune des critiques de disques consacrée à la 6e suite française de Bach, c'est la version de « Kiss, j'arrête » qui avait été préférée par les critiques. Le voici donc dans ses œuvres d'interprète, au piano ou au clavecin, dans Mozart et dans Bach. C'est en septembre 1991 que Keith Jarrett, au clavecin, enregistrait dans le New Jersey les 6 suites françaises de Jean-Sébastien Bach, dont nous écoutions à l'instant la quatrième. Le voici cette fois au piano, dans Mozart, en compagnie de l'orchestre de chambre de Stuttgart dirigé par Dennis Russell Davis, dans les deuxième et troisième mouvements du 21e concerto. C'était le mouvement lent et le final du 21e concerto pour piano de Mozart par Keith Jarrett, l'orchestre de chambre de Stuttgart dirigé par Dennis Russell Davis, enregistré pour le label ECM en 1994. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. La journée anniversaire Keith Jarrett continue sur France Musique avec Alex Dutille et Nathalie Piollet à partir de 18h et pour toute la soirée. Comme si vous y étiez, avec la collaboration de Gilles Blanchard et Xavier Carrère, vous donne rendez-vous lundi à midi sur France Musique, au programme Hildegard de Bingen, où vous mitonne ses petits plats.
À réécouter sur francemusique.fr.